Merci beaucoup. On a parlé du sondage, puis on va en reparler avec la commission tantôt. Sondage Ipsos La Presse ce matin. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que, évidemment, la CAQ, ça se confirme comme première place. Le Parti libéral a perdu quelques points. On est à 34 pour la CAQ. On est autour de 30 pour ce qui est des libéraux. PQ est à 23. Québec solidaire passe de 12 à 8, ce qui est quand même notable. Mais évidemment, c'est un portrait de l'électorat. Ce que le sondage montre également, c'est qu'il n'y a pas de sauveur au Parti québécois. Il n'y a pas d'effet Pierre-Carl Péladeau significatif. Il n'y aurait pas non plus un effet Jean-Martin Hossan significatif. Et dans le cas du Parti libéral, la santé est un problème, dans la mesure où les Québécois pensent que le système ne s'est pas amélioré au fil des ans et les Québécois n'apprécient pas l'arrogance et l'attitude du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Cela étant dit, on arrive avec une série d'événements depuis les derniers jours, là, que ce soit le litige avec les infirmières, les opérations forcées de temps supplémentaire qui causent encore des problèmes, les préposés aux bénéficiaires. Ce matin, on peut lire qu'il y a des postes qui sont disponibles, les budgets ont été alloués, mais personne ne semble intéressé à les travailler comme préposés dans les centres de soins de longue durée. Et vous avez en plus la Fédération des médecins résidents du Québec qui se prépare pour une grève parce qu'on n'est pas là non plus satisfait des conditions. Le docteur Christopher Lemieux est avec nous. Docteur Lemieux, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Si je comprends bien, là, une grève, c'est un peu théorique dans la mesure où il y a des services essentiels à assurer.
Exactement. Comme médecin résident, on est professionnel de la santé, on est assujetti à la loi sur les services essentiels. Donc, on peut, si on ferait une grève générale complète, c'est sûr qu'il y aurait des atteintes aux soins de la population. Donc, on est limité à seulement 10% des effectifs qui peuvent se prémunir du droit de grève si on tombe en grève.
OK. Dans le fond, ce que vous dites, là, puis je lisais là, un peu le point que vous, les points que vous soulevez, vous avez l'air de vous présenter comme les esclaves du réseau de la santé. Vous travaillez à moins de 15$ de l'heure, vous travaillez des semaines de 70 heures et plus, que ça a l'air que c'est à peu près les pires conditions qui existent.
Bien, en fait, effectivement, les médecins résidents travaillent beaucoup. Tous les sondages des dernières années démontrent là, que, en moyenne, un médecin résident fait, comme vous avez pu le lire, là, 72 heures par semaine. En plus de l'étude, en plus de préparer des présentations, de travailler sur des projets de recherche. Donc, c'est sûr que c'est un horaire qui est très chargé. Et ce qu'on demande actuellement dans nos négociations au ministère, c'est de reconnaître la contribution des médecins résidents. Et nos vis-à-vis nous manquent complètement de respect là, en nous disant qu'on est des simples stagiaires et qu'on devrait déjà être heureux d'avoir une rémunération, alors qu'on est actuellement principalement des travailleurs de la santé. Le meilleur exemple, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'on est assujetti à la loi sur les services essentiels. Donc, on n'est pas des simples stagiaires actuellement.
Est-ce que ça a toujours été comme ça? C'est-à-dire que si je parle à des médecins aujourd'hui qui ont été résidents il y a 10 ans, 15 ans, c'est le même genre de système?
Exactement. Ça fait déjà plusieurs années là, que qu'on est regroupé en syndicats et qu'on a des conditions de travail. Si on regarde la charge de travail des médecins résidents, je vous dirais qu'elle a évolué au courant des dernières années. C'est sûr que si on compare à il y a 20 ans, 25 ans, la médecine était très différente. Aujourd'hui, si on regarde les connaissances à acquérir au courant de la résidence, ça va de façon exponentielle là, parce qu'il y a de plus en plus, avec Internet, avec tous les différents réseaux, il y a une explosion des connaissances à acquérir, ce qui fait que on pourrait se permettre de dire qu'en 2017, c'est sûr que la charge de travail est importante.
Mais justement, pourriez-vous, parce que pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, ce matin, c'est peut-être un peu difficile à saisir, un médecin résident, ça fait quoi dans un hôpital?
Dans le fond, un médecin résident, à la base, c'est quelqu'un qui a terminé son diplôme de médecine, donc qui a fait ses 4-5 ans d'université et qui travaille dans les hôpitaux pour compléter une formation postdoctorale, que ce soit 2 ans en médecine familiale ou de 4 à 7 ans dans les autres spécialités. Et le travail d'un médecin résident, si on parle à l'hôpital, c'est exactement comme un médecin en pratique. C'est qu'ils vont faire de la clinique, ils vont rencontrer des patients, faire des diagnostics, proposer des traitements. La seule différence, c'est qu'on se rapporte toujours de façon indirecte, parce qu'on n'a pas le médecin tout le temps à côté de nous. Là. On se rapporte à lui, comme exemple, en fin de journée pour réviser des consultations, quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là qu'on a un peu de l'enseignement par rapport à ça. Mais au jour le jour, le médecin résident est vraiment un médecin en pratique qui doit simplement se rapporter à un autre médecin en exercice.
OK. Un médecin résident fait combien par année en moyenne, disons?
En moyenne, si on regarde le salaire de base, là, c'est autour de 55 000.
OK, puis vous demandez combien?
Ben, on demande un rattrapage, si on veut, de 17 % par rapport au... Si on compare à d'autres provinces canadiennes, on est, y a un écart qui est jusqu'à 30 %. Mais le gouvernement actuellement refuse de reconnaître cet écart-là à cause du qu'on n'est pas dans la même province pour le coût de la vie. Mais on se compare actuellement à d'autres professionnels là, de la santé qui, pour à peu près le même nombre d'années de scolarité et un travail relativement équivalent, qui sont actuellement les infirmières praticiennes spécialisées, gagnent en moyenne 27 % de plus que nous. Donc, on trouve qu'il y a un écart considérable, considérant tout le travail qu'on fait actuellement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin résident, on a un salaire annuel. Donc, qu'on fasse 40 heures, qu'on fasse 60 heures, qu'on en fasse 80 heures par semaine, on a une rémunération qui est fixe. On n'a pas d'heures supplémentaires qui nous sont payées actuellement.
OK, mais je vous écoute, là. Je retiens deux, trois choses. D'abord, c'est que les médecins ont eu leur rattrapage. Vous, vous dites, on aimerait l'avoir, on ne vous le donnera pas. Puis, dans le fond, compte tenu des lois, quand même que vous faites la grève... Pas certain qu'on va s'en rendre compte puis que le ministre va être touché par ça.
Ça a quand même un impact, je vous dirais. C'est sûr que le 10% peut paraître minuscule, là, mais le 10% des résidents là, en moins dans les hôpitaux universitaires, ça fait une différence parce que justement le réseau est fait en conséquence que les médecins résidents absorbent une bonne partie du travail et si demain il y a 10% des résidents qui rentraient pas, ça aurait un impact là, sur la charge de travail là, actuellement.
Dernière question qui n'a rien à voir avec votre négo. Ben, en fait, juste avant, la grève, ce serait quand, si jamais vous la déclenchez?
Écoutez, pour l'instant, on laisse au ministère la chance de nous revenir à la table de négociation avec des vrais négociateurs là, qui ont un mandat sérieux. Par la suite, si on n'a toujours pas de réceptivité, c'est sûr qu'on va enclencher les moyens de pression au courant des prochaines semaines. Il y a différents moyens de pression, mais ça va aller jusqu'à la grève. Il n'y a pas de calendrier encore... établi.
OK. Ma question qui est hors champ, là, c'est au sujet des relations entre votre patron, là, qui est le médecin spécialiste, et disons, vous qui êtes médecin résident. Moi, on me raconte que historiquement, ce sont des relations qui sont souvent très dures. Là. Puis on est dans un contexte où les musiciens de l'OSM dénoncent Charles Dutoit. Est-ce que c'est une légende de dire que la relation, souvent, je comprends qu'il y a des exceptions, là, mais entre le médecin patron puis le médecin résident, c'est assez dur?
Non, je vous dirais, c'est sûr que, comme vous dites, il y a des exceptions à toute règle, mais globalement, les médecins superviseurs, les médecins qui font de l'enseignement qui sont avec nous là, au jour le jour, les relations sont très cordiales. Et si vous demandez aux médecins, en pratique, justement, si l'apport d'un médecin résident est important dans le système, ils vont tous vous dire que, pour eux, on est important. Là. Mais on n'a pas de... parfois, ça peut être difficile, là, mais la majorité du temps, je vous dirais que c'est quand même assez cordial.
C'est pas j'en connais, puis c'est vous ce qu'ils me disent. Qu'eux ont été élevés, éduqués à la dure, et que vous, ça va pas mal mieux. C'est peut-être correct aussi, là, mais eux se faisaient crier après, puis disons qu'il n'y a pas bien le choix. Là. C'était ta gueule, c'est le boss. Vous, c'est pas comme ça?
Non.
OK, tant mieux, les choses évoluent. Merci beaucoup, Dr Lemieux, qui est le président de la Fédération des médecins, résident du Québec.